Les Grandes Gueules sur RMC avec Biofib. L'isolant en chanvre, idéal pour vos travaux de rénovation. Biofib, ça chanvre tout.
RMC, les Grandes Gueules.
Alors, à toutes fins utiles, on vous rappelle que les tarifs des péages ont augmenté de 5 euros à partir de 5% à partir de début février. Et le Canard Enchaîné rappelle que aussi que l'État aurait enterré un rapport qui préconisait au contraire une baisse de ses tarifs de péage.
La vente des autoroutes par le gouvernement Villepin en 2006 n'a pas fini de créer la polémique. On en parle régulièrement. La dernière exemple en date, c'est cette mission d'expertise qui a été rendue en février 2021 et qui relève une rentabilité très supérieure à ce qui était prévu dans la vente des autoroutes et dans le contrat passé à l'époque. 12% de rentabilité contre 7,67%, c'était ce qui avait été décidé à l'époque en 2006 lorsqu'on a vendu les autoroutes. Donc il y a des super profits. Alors la question est de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Alors ce rapport préconisait de récupérer une partie de ces profits dans une sorte de taxe, un prélèvement par l'État, ce qui pouvait d'ailleurs ce prélèvement rapporter à l'État jusqu'à 55 milliards. Il y avait aussi l'idée de faire baisser de près de 60% des prix des péages, donc faire profiter les automobilistes. Le problème c'est que ces deux scénarios sont impossibles parce que les contrats sont tellement bien verrouillés qu'il est impossible de revoir et d'imposer ce genre de choses. Parce que si on le fait, on a des pénalités. J'en veux pour preuve, quand Ségolène Royal devient ministre des Transports et Transition écologique, après donc tout ça, sous Hollande, elle décide, vous vous souvenez, de geler l'augmentation. Eh bien ça, depuis qu'elle a fait ça, on paye des pénalités parce que c'était interdit. Et donc s'il y a une augmentation en moyenne de 5% en février, 4,75 précisément, c'est aussi en partie pour éponger les bêtises de Madame Royal et cette vente de Villepin qui, il faut quand même le rappeler, à l'époque, Villepin avait dit « on a fait une super affaire
oui. ».
On a vendu les autoroutes 14 milliards d'euros ouais. chaque année. Ça rapporte 11 milliards d'euros. Hein.
Ah là, mais quelle affaire.
Faites le calcul depuis 2006. Donc, en fait, la seule solution, si on en croit ce que nous dit le Canard Enchaîné, c'est d'attendre la fin des concessions. Alors, pour la plupart, c'est 2030, pour essayer de mieux renégocier et de récupérer un peu cet argent. Donc, un, est-ce que vraiment on a fait une erreur du coup, alors, il faut quand même rappeler, c'était Villepin, Premier ministre, et c'était Thierry Breton, le ministre des Finances. C'est lui qui avait vendu cette idée.
Encore un bon.
Aujourd'hui commissaire européen, est-ce qu'on s'est fait avoir ? Est-ce que ce n'est pas un véritable scandale d'État ?
Thomas ?
Oh bah là, on s'est fait, comme il a dit, De Villepin avait dit que c'était une bonne affaire. On nous avait promis que les tarifs allaient être garantis. C'est des concessions oui. de 28 ans. On nous avait dit les tarifs sont garantis, vous n'en faites pas. Puis l'État n'a plus vocation à gérer les autoroutes, c'est le privé qui va le faire.
Ce qui était peut-être vrai, parce que quand l'État gère les routes, il suffit de voir l'état de certaines de nos routes.
Elle va le faire de manière plus efficace. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Si on regarde les cinq années après la privatisation, déjà, quand il y a une privatisation, il y a des actionnaires. Donc les actionnaires doivent toucher une partie de l'argent qui est généré. Donc ils ont touché 5 milliards. 5 milliards. Les effectifs ont baissé de 14%. Donc, tu vois, on a vraiment fait la baisse des coûts. Le tarif du kilomètre de la route a augmenté. Donc, on a eu l'opération traditionnelle de privatisation où on baisse les coûts et on fait générer du profit qui revient majoritairement aux actionnaires. Et donc, il y a eu vraiment, là, dans ce que l'on voit, une forme de capture du régulateur, comme on dit en économie, c'est-à-dire des intérêts privés qui ont capturé le régulateur, l'État, et qui ont fait une bonne affaire.
Donc, il faut récupérer les autoroutes ?
Après 28 ans, moi, je pense qu'il faut les récupérer. Parce que là, on voit bien, ils s'y sont bien pris. Ils s'y sont bien pris, quand même. Puisque les contrats sont tellement bien ficelés que dès que tu leur imposes quelque chose...
De meilleurs contrats.
Voilà. Donc, ça a été une très mauvaise affaire. Et au final, qui est-ce qui paye ? C'est l'usager. Mmh. Et l'usager sur la bagnole, hein, entre les carburants, les radars, les autoroutes, etc. On ne peut pas s'étonner que les mecs, un jour, ils mettent un gilet jaune et qu'ils montent sur la capitale.
Kevin Bossuet ?
Oui, je pense que ça a été une erreur. C'est le libéralisme, la privatisation à tout prix, sauf qu'on se rend compte, en effet, que ce n'est pas forcément ce qu'il faut toujours faire. Voilà, donc je crois que Thomas a tout résumé. En effet, c'est une arnaque totale et que, on est en train de vendre dans ce pays nos bijoux de famille alors qu'on devrait les garder parce qu'il faut être fier de ce que l'on possède et en plus, on peut générer de l'argent.
Voilà. Tout à fait.
Alors, très sincèrement, on parle aujourd'hui de rapport enterré, de scandale, du fait que ce rapport aurait été enterré. La question est, qu'est-ce qu'on peut en faire, en fait ? En réalité, voit ce que tu résumais, Olivier, c'est que, quelle que soit la façon dont tu tournes les choses, on ne peut rien faire. On a un constat, certes, Le constat, c'est qu'on avait mal calculé, mal modélisé. On pensait que ça serait 7,5% et on est à plus de 12% en fait, de rentabilité. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, le deuxième constat, mais ce qui là est beaucoup plus effrayant, c'est qu'on a payé certainement beaucoup d'énarques pour relire les contrats. Et que ces contrats, en fait, c'est un métier, en fait, hein, je veux dire, et ils se sont fait avoir comme des bleus. C'est-à-dire, tout a été verrouillé. En fait, les contrats sont faits de telle sorte que l'État ne peut rien faire. Mais on les lit, les contrats, en fait. Enfin, ça a pris des mois et des mois. Qui a laissé faire des trucs pareils? Et le scandale, il n'est pas pour Bruno Le Maire aujourd'hui. Enfin, je veux dire, le scandale, il est pour en amont. Au moment où on signe ces contrats, on ne met même pas de clause de revoyure, en fait, on va dire, à un moment ou à un autre, parce que ce n'est pas compliqué, en fait, à un moment de dire, bon, ben, on fera le bilan, nous, on part, on dit que vous allez faire tant, et que si vous faites plus, on prévoit ce qui va se passer, etc., etc. Celui qui était en position dominante au moment de la signature, c'était l'État.
Donc c'est le vendeur.
Mais bien sûr, et ils auraient pu imposer des choses. Parce qu'en en fait, ils nous font croire qu'ils ont fait une bonne affaire, mais non, ceux qui ont fait une bonne affaire, c'est ceux qui étaient en face. Donc ceux qui pouvaient imposer, en réalité, c'était l'État. Et ils n'ont rien imposé du tout, et c'est eux qui se sont fait avoir. Enfin, je veux dire, c'est le principe de base de la négociation des contrats.
Ça pose aussi la question de la responsabilité politique. C'est-à-dire qu'il y a des erreurs qui sont faites, qui nous coûtent trop cher, et finalement, ceux qui ont commis ces erreurs sont soit toujours en poste, et je parle de Thierry Breton, commissaire européen, qui vient quand même régulièrement nous faire la leçon sur ce qui, voilà, sur comment il faut gérer,
mais est-ce
etc.
Est-ce qu'il l'a lu en entier, ce contrat, Thierry Breton, tu vas pas me le faire croire.
Enfin, c'est lui qui a vendu l'idée à l'époque.
Oui,
hein,
mais
Villepin, enfin, tu vois, la plupart des responsables politiques sont toujours en poste et on leur demande jamais des comptes. Oui. C'est Ségolène Royal, qui avait, par démagogie, gelé l'augmentation et on paye des pénalités. Bon, après, le procès du libéralisme, Kevin Bossuet, c'est un peu facile parce que moi, je suis pas sûr que l'État, c'est la mission régalienne de l'État de gérer des routes et des autoroutes. Regarde l'état de nos routes départementales. Regarde l'état des routes à Paris quand c'est géré par les mairies et départements. Ils n'ont plus d'argent. C'est des trous. Enfin, c'est, sincèrement, je ne suis pas sûr que ce soit.
Il n'y a pas de budget dédié.
Alors, il faut reconnaître que les autoroutes, elles sont plutôt. Quand tu voyages un peu à l'étranger, les autoroutes françaises font partie des plus sécurisantes. Elles sont belles. C'est refait, etc. Alors après, ça, c'est vrai, il y a beaucoup d'argent. Donc, je ne suis pas sûr. On pouvait très bien privatiser, mais mieux privatiser.
Mais oui.
On pouvait très bien se dire, on récupère chaque année plus d'argent, etc. Puisque c'est une rente, c'est une question de contrat, c'est pas une question de libéralisme.
Absolument.
On aurait pas aussi...
Sincèrement, parce que Thomas, il veut que l'État gère tout, mais l'État gère mal l'hôpital, gère mal la justice, gère mal la police. Donc c'est vrai que ça donne pas tellement envie de vous confier beaucoup de choses à l'État.
Non mais l'État, il a une spécificité, c'est qu'il vend tout ce qu'il rapporte. Alors c'est pour ça que moi je dis, il y a quand même une capture du régulateur. À un moment, il voulait vendre ADP, tu vois, tout ce qui est. Et là, tu vois, il vend les autoroutes, ça rapportait bien.
Mais parce que l'État vit au-dessus de ses moyens.
Oui, mais alors déjà,
même
sur d'autres choses. C'est pas très intelligent, je vais vous dire pourquoi. Parce que, vous savez, on parle souvent de la dette publique, il y a une dette publique, il y a un passif, il y a aussi un actif. L'actif, c'est le patrimoine public. Le patrimoine public, c'est les autoroutes, c'est ADP, etc. Et vous savez, là, il y a beaucoup d'études d'économistes qui montrent que quand vous avez un patrimoine public qui est supérieur à la dette publique, c'est bon pour la soutenabilité à long terme de votre dette. Et là, le patrimoine public, il diminue, ils font, ce qui fait que là, on a plus de dettes et on a moins de patrimoine public, ce qui est idiot, en fait, en termes de comptabilité.
Ils font parce qu'on l'entretient pas. Parce qu'on ne sait pas l'utiliser. Regarde là aujourd'hui la rénovation des bâtiments publics, combien ça coûterait les passoires thermiques?
Ah bah ce serait...
C'est plusieurs dizaines de milliards.
Bien sûr, il y a 4 millions de passoires, il faut 20 000 euros par passoire.
On n'a pas l'argent.
Ce serait énorme. Ouais. Mais si on voulait rénover l'ensemble du parc des habitations, ça prête... il y a 35 millions d'habitations à rénover, il faudrait mettre au moins 20 milliards par an sur 25 ans.
Nous sommes avec Vincent Delahaye qui est avec nous, qui est sénateur de l'Essonne, rapporteur de la commission d'enquête sur la régulation des concessions autoroutières. Bonjour,
bonjour.
Monsieur le sénateur. Vous étiez au courant de ce rapport là commandé par Bercy qui aurait été mis dans un tiroir?
On n'est pas au courant de tous les rapports et puis ce rapport est, en fait il était pas destiné à être public. Moi je trouve que tous les rapports devraient être publics, mais celui-là, il n'était pas destiné à être public, mais il va complètement dans le sens de ce qu'on a pu conclure au niveau du Sénat, hein, sur la surrentabilité des concessions d'autoroutes. Alors moi, je ne suis pas du tout pour une renationalisation, parce que je pense que l'État gère assez mal tout ce qu'il gère.
Et combien ça coûterait?
On ne sait pas trop, hein. On dit autour de 40 milliards, mais en réalité, on n'en sait rien. Par contre, il faut absolument revoir ces contrats. Parce que les contrats qui ont... C'est le péché originel des concessions d'autoroute. Ces contrats, ils sont conclus entre l'État et lui-même. Et quand on conclut un contrat avec soi-même, on ne fait pas très attention. Alors, quand ça a été ouvert au privé par Jospin, faut rappeler que c'est Jospin.
Oui, c'est vrai que c'est un gouvernement socialiste qui a commencé à privatiser.
Voilà. Et ensuite,
toujours le rappeler.
C'est de Villepin qui est allé plus loin, mais on aurait dû revoir les contrats à l'époque.
Bien sûr. C'est ça le problème.
Et les contrats sont très mal foutus. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on n'est pas assez rigoureux vis-à-vis des concessionnaires. Et on devrait pouvoir se mettre autour de la table pour rediscuter un peu de ces
mais
contrats.
Est-ce qu'on pourrait récupérer une partie de ces super profits renégocier les contrats
D'ici la fin des contrats, on chiffre la surrentabilité à plus de 30 milliards. C'est-à-dire que ce que vont toucher les sociétés concessionnaires par rapport à une rentabilité de 8% déjà, hein, qui est déjà pas mal, hein, sur la durée du contrat, en fait, on considère qu'ils vont toucher à peu près 32-35 milliards. Mmh. Et c'est dans ces 32-35 milliards qu'il faut aller puiser pour...
Et on peut le faire, ça
On ne peut pas.
Ah ben, on peut pas, on peut négocier. L'État est en capacité de négocier, parce que vous avez un renouvellement des contrats qui se fera dans les années 30, de 31 à 36. Si les sociétés concessionnaires, qui sont des bonnes sociétés, hein, qui gèrent bien et qui nous font des autoroutes qui sont des bonnes autoroutes, on a intérêt à ce qu'on puisse renégocier. Et elles ont intérêt aussi à viser le long terme et pas le court terme.
Mais il y a
le
déjà
court terme, c'est des gros profits, mais le long terme, ça peut être aussi de la perte.
Donc, en fait, si je comprends bien, on pourrait leur dire, écoutez, si vous voulez qu'en 2030, on renouvelle, voilà, il va falloir qu'on récupère une partie de vos profits.
Ouais. Voilà, tout à fait. Mettez-vous autour de la table et puis on va discuter. Voilà ce que devrait faire le ministre des Transports.
Et est-ce que le gouvernement est assez ouvert à ça ou au contraire, on a plutôt envie de ne pas y venir?
Pour l'instant, on ne le voyait pas du tout avec le précédent. Là, j'ai vu Clément Beaune il n'y a pas longtemps, il paraît plus ouvert, mais quand je vois l'augmentation qui est prévue au 1er février de 4,75, je pense qu'il n'a rien négocié du tout.
Mais est-ce que
il a appliqué strictement le contrat, mais sans rien négocier.
Mais les Français, ils en ont pour leur argent, les automobilistes c'est-à-dire les autoroutes sont bien entretenues, sont sûres, non
Non, c'est vrai. Et moi, je pense qu'il faut arrêter d'augmenter les tarifs. Il ne faut pas les baisser parce que sinon on favoriserait l'utilisation de la voiture et je ne pense pas que ça soit dans l'air du temps et que ça soit souhaitable. Par contre, il faut renégocier et retrouver pour la puissance publique une partie de l'argent qui est...
Via l'impôt, on la retrouve, ces sociétés qui font des bénéfices au-delà d'escompter. Il y a déjà des taxes dessus.
Elles versent des impôts, c'est vrai, mais on leur a baissé l'impôt sur les sociétés, par exemple.
Alors, est-ce que c'était une bonne affaire pour vous,
monsieur? De 33 à 25% et elles n'ont rien dit, elles ont encaissé l'argent.
Et monsieur le sénateur, est-ce que c'était une bonne affaire alors? Est-ce qu'on a eu raison de le faire selon vous? Parce que là...
Moi je pense qu'on aurait mieux fait de mieux négocier au départ avec contrats révisés dès le départ, comme on les a aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui sur les nouvelles concessions, on a des bons contrats et on les suit de très près. Parce qu'un contrat, il faut le suivre de très près, il ne faut pas laisser la société faire exactement ce qu'elle veut faire. Et la puissance publique doit être présente à ce niveau-là et je pense qu'on ne l'a pas été assez.
Non, mais le problème, c'est que vous partez du principe qu'on va effectivement peser en disant, bon, si vous voulez avoir une reconduction en 2030-2031, vous avez intérêt aujourd'hui à nous donner...
À discuter.
Sauf que là, vous partez du principe qu'on est face à deux co-contractants privés. L'État ne fait jamais ça. Et c'est bien le problème. Moi, je suis d'accord avec vous que c'est ce qui devrait être fait par l'État. Mais l'État, en fait... négocie jamais, signe des contrats absolument incroyables, enfin, juridiquement en général, enfin, c'est des trucs qui n'ont aucun sens. Et d'ailleurs, j'aimerais justement avoir la réponse. D'un côté, vous aviez des cabinets d'avocats du côté privé. Qui était du côté public? Qui a rédigé ces contrats? Qui a relu ces contrats? C'est des énarques ou c'est des avocats?
Où était McKinsey?
C'est des fonctionnaires du ministère des Transports. Et comme je le disais tout à l'heure, en fait, c'est l'État qui a discuté avec lui-même, puisque c'était des sociétés d'économie mixte qui étaient contrôlées par l'État.
Oui, mais je veux dire, avocat, c'est un métier. Hein, je veux dire,
bien entendu.
C'est l'avocate qui vous parle aussi, mais c'est un métier. Et d'un côté, vous aviez au moment de la privatisation, parce qu'effectivement, dans un premier temps, c'était l'État avec lui-même. Ensuite, c'est privatisé. Et quand vous privatisez, vous avez des gros cabinets privés d'avocats qui viennent. Mais si en face, vous avez des énarques ou des fonctionnaires, ils ne sont pas juristes.
C'était Dominique Perben, le ministre de Transport de l'époque. On est sous Jacques Chirac, Villepin est à Matignon, Breton est aux finances et Perben est au transport.
Sachez que depuis 2015, quand même, les contrats de concession, alors c'est des beaucoup plus petites concessions, mais sont bien mieux ficelés.
Et
il y a des clauses de revoyure régulières. Et dans ces contrats d'origine, il n'y a aucune clause de revoyure, ce qui n'est pas normal.
Les sociétés d'autoroute.
Oui.
Et vous, est-ce les sociétés d'autoroute étant gérées aussi par des énarques, hein, le patron de Vinci, etc.
Non, mais c'est pour ça.
Pardon.
Que...
Non, mais... tout ça,
c'est,
on est entre.
C'est pour ça que. Non, mais on fait comme si l'État était bête, tu vois. Oh, l'État est bête. C'est un peu. Vous savez, il y a des pays pauvres où il y a des compagnies pétrolières qui ont des concessions à des prix, mais alors défiant toute concurrence. Le président de ces pays est souvent très, très riche et on dit oh, il s'est fait avoir, il a mal signé. Faut quand même vraiment faut se demander s'il y a, j'ai pas envie de voir les choses mal, mais il y a pas des histoires quand même de corruption derrière, parce que on est bébête quand on veut être bébête, hein, et on voit bien que là ils sont assez bébêtes quand même. Ils ont été pas de clause de revoyure sur des concessions d'autoroute, dis donc.
Ah oui.
Ouais, et c'est des énarques, hein, attention. Bon.
On était beaucoup trop vite.
On a été beaucoup trop vite.
En
2006, sûr,
oui. Et comme toujours, hein, les décisions se prennent rapidement. Oui. C'est des décisions politiques. Et ensuite, c'est vrai qu'on n'a pas forcément le temps de suivre ce qui devrait être fait.
Il faut reconnaître que ça avait été dénoncé à l'époque par François Bayrou, qui était monté au créneau, qui avait dit on a bradé les
bouchers. Un sage.
Quand Bayrou, parfois, il dit pas
des bêtises.
Peut-être sur la réforme des retraites, il faudra l'écouter également. Mais il avait dénoncé ça. Mais finalement, on a dénoncé ça, mais on n'a rien pu faire depuis.
Merci, monsieur le sénateur Delahaye. Pierre va en discuter avec nous. Il nous appelle des Alpes-Maritimes. Bonjour, Pierre.
Bonjour les grandes gueules.
Bonjour, que autoroute, ça vous fait bondir tout de suite, Pierre.
Oui, tout à fait. Surtout en plus, moi, en étant président de l'association de la gratuité de l'autoroute dans les Alpes-Maritimes, on se bat depuis 1990 pour obtenir la gratuité. On avait gagné les procès, mais malheureusement, avec Dominique de Villepinte, le premier ministre de l'époque, qui a privatisé, notre procédure est tombée à l'eau. Mais je continue de me battre pour obtenir, bien sûr, d'autres choses. Comme vous l'avez signalé, les contrats sont tellement bien ficelés qu'on ne peut pas en sortir. Mais aujourd'hui, avec la transition écologique, moi qui suis par exemple de Cagnes-sur-Mer, où l'autoroute est une plaie catastrophique qui traverse le centre-ville de Cagnes-sur-Mer, Saint-Laurent-Villeneuve-Loubet, je défends par exemple la couverture de l'autoroute pour avoir cet effet d'autoroute, de pollution, de bruit et autre chose atténué. Mais il faudrait que ça soit Vinci qui paye la note.
Oui, mais Pierre, alors là, vous êtes assez contradictoire, parce qu'à la fois, vous voulez que l'autoroute soit gratuite, mais vous voulez quand même que quelqu'un paye la note. Or, si on veut continuer à entretenir les autoroutes, les couvrir peut-être, ou faire des détournements, des contournements de ville, il faut bien de l'argent. Donc, si ce n'est pas les sociétés de le péage, il faudra que les Français payent. Il y a bien quelqu'un qui payera, vous comprenez ?
Mais on est tout à fait d'accord. Mais là, l'origine, c'était, est-ce que Vinci doit redonner de l'argent ? Enfin, moi, je dis Vinci parce que nous, c'est Vinci. Oui. Vinci, par exemple, c'est 1,66 milliard de résultats nets en 2019. Mmh. Donc je pense qu'ils peuvent nous laisser quelques petites centaines de millions pour atténuer le problème. Bien sûr que la gratuité, nous on s'est battu pour la gratuité sur l'autoroute A8, parce que pour nous, dans le 06, les Alpes-Maritimes, ce n'est plus une autoroute. C'est une route nationale constamment encombrée, et donc on a un péage qui est dramatique. À Cagnes-sur-Mer, où on paye quasiment 2 euros pour faire 5 kilomètres. Mmh. Et en plus, là où on est énervé dans le 06, c'est que cet argent-là a servi à construire d'autres autoroutes en France, ce que je trouve très bien, mais ces autres autoroutes sont gratuites. Et nous, on continue de payer. Il devrait y avoir une suite. Les autres ont construit l'autoroute, qu'elle soit payante là-bas et que nous, on devienne gratuite.
Donc vous voudriez que le gouvernement, que l'État taxe ses super-profits, en fait ?
Oui, ou bien fasse pression pour que c'est la nuisance de l'autoroute, parce qu'elle est tout de même chez nous,
super
importante, soit atténué.
Mais vos élus locaux...
Mais vous n'êtes pas contre la gratuité globale des autoroutes, Pierre ?
Ou
vous voulez que la puissance publique récupère globalement tous les autoroutes, les autoroutes ?
Moi, je ne vous parle pas de la France entière. Je parle déjà de notre cas, nous, dans le 06, où à la rigueur, la gratuité, elle devrait être intramuros 06, c'est-à-dire qu'on met un péage à l'entrée du département, à la sortie du département, on le comprend très très bien. Mais à l'intérieur, ce n'est pas normal qu'à Cagnes-sur-Mer, on paye l'autoroute, qu'à Nice-Nord, on ne paye pas l'autoroute, qu'à Cannes, on ne paye pas l'autoroute, on la paye à Antibes, et ainsi de suite. C'est où tout le département est gratuit et on fait rentrer les gens qui rentrent et qui sortent de l'autoroute du 06 payant, ce qui est tout à fait normal, pour continuer à entretenir et puis aussi servir à atténuer
et Pierre,
la plaie.
Quelle est votre analyse ? Comment ça se fait, en fait, que certaines autoroutes soient gratuites et d'autres payantes ? C'est parce que certaines autoroutes sont gratuites parce que c'est pour les touristes, il faut les faire venir.
Sur la Côte d'Azur.
Et d'autres sont payantes parce que c'est les travailleurs et qu'ils les utilisent tous les jours. C'est quoi le truc ?
Comme d'habitude, malheureusement, la Côte d'Azur a une image d'argent et qu'on se dit, ceux de la Côte d'Azur, ils peuvent payer et d'autres ne peuvent pas payer.
D'accord.
C'est très simple. Et puis aussi, bien sûr, comme d'habitude, c'est parce qu'on a des politiques, quand ils prennent des décisions, malheureusement, on a aussi des conséquences on voit les effets néfastes ou bons, des fois, 15 ans, 20 ans, 30 ans après. Et le coût de l'autoroute, de privatiser l'autoroute, parce que tout à l'heure, vous parliez, oui, les villes ne savent pas gérer l'entretien, enfin, ne savent pas, gèrent, ont du mal à gérer l'entretien des routes des villes. Oui, mais parce que les routes, là, ils n'ont pas de péage. L'autoroute
non, non, mais c'est même pas ça. C'est pas uniquement ça, Pierre. C'est que en réalité, un concessionnaire d'autoroute n'a que ça à faire. Sa seule mission, en fait, c'est d'entretenir l'autoroute.
Ouais.
Tandis qu'une mairie, une collectivité, quelle qu'elle soit, a tellement de missions par ailleurs qu'elle ne peut pas. En fait, son budget, en fait, est mal réparti, tout simplement.
Merci. C'est pour ça que l'autoroute a les moyens, lui. Et ben, voilà. Comme je vois Vinci avec 1,66 milliard, moi, la couverture de l'autoroute sur Cannes-sur-Mer coûterait à peu près 250 à 300 millions. Franchement, sur les 1,66 milliard, ils peuvent nous en donner un peu.
Merci
millions.
Pierre d'avoir été avec nous. Merci Pierre.
Merci
après Thomas, merci, à bientôt Pierre. Tu disais une chose, tu dis quand on a privatisé les autoroutes, on a vu aussi disparaître, enfin, on a vu l'automatisation et disparaître les gens des péages. Mais est-ce que c'était des métiers qui, de toutes les manières, n'avaient pas vocation à disparaître, tu sais aussi
Pierre.
Est-ce qu'on avait besoin d'avoir quelqu'un, tu vois, dans sa guérite, à qui tu disais pas forcément bonjour, tu donnais la pièce,
c'est
tu faisais tomber, c'était pas forcément un métier valorisant. Aujourd'hui, tu passes, tu as le sans contact, c'est comme les caisses automatiques, tu vois. Donc,
il y a quand même une ou deux personnes qui restent, parce que si tu as des problèmes avec les machines, il vaut mieux avoir des humains.
Oui, mais tu as des personnes qui restent en permanence, en veille, qui sont à côté. Mais on n'avait pas forcément besoin d'avoir encore des employés d'autoroute, comme ça, t'es d'accord ?
Non, bien sûr. Mais
comme
après...
comme la caissière aujourd'hui au supermarché.
Tout à fait.
Qui étaient des métiers pénibles. Donc c'est plutôt une bonne chose, peut-être, d'être passé à l'automatisation, quoi. Enfin,
Oui, tout à fait. Mais après quand même, tu vois, enfin...
C'est pas la déshumanisation, quand même.
Non. Mais ça s'est fait déjà très rapidement dans les cinq années qui ont suivi la privatisation. Oui, d'accord, mais d'accord.
C'est un peu dans le sens de l'histoire. Enfin, après, je ne suis pas sûr qu'il faut s'accrocher sur les métiers pénibles. Je veux dire, c'est quand même des métiers pénibles. On peut inventer d'autres métiers moins pénibles que de dire « Ah, il faut à tout prix avoir des gens dans les cabines ».
Bien sûr, non, mais j'ai jamais dit ça. Ouais. J'ai jamais dit ça. Non,
tu leur reprochais d'avoir fait disparaître ces métiers au nom de la rentabilité.
Très rapidement, ouais, voilà. Mais une opération de baisse des coûts pour faire. Mais à partir du moment où, de toute façon, vous avez une privatisation, vous avez quand même une partie prenante en plus qui s'appelle l'actionnaire.
Ouais.
À partir du moment où vous avez l'actionnaire, vous devez lui donner une partie du profit. Et les actionnaires récupèrent après 60% du profit. C'est à peu près ça dans le 4 40 minimum. Hein. Parfois, c'est un peu plus. Donc, vous devez faire, voilà.
Oui, mais il faut reconnaître que les autoroutes, parce qu'on tape sur la société d'autoroutes, on trouve que...
Pourquoi les gens se sont fâchés? Parce que c'est les tarifs.
Les autoroutes, elles sont de qualité. Heureusement, tu me diras, si en plus c'est de mauvaise qualité.
Augmenter.
Les tarifs augmentent. Quand tu prends l'autoroute, c'est assez frappant d'ailleurs, parce que quand tu prends l'autoroute à 6, par exemple, tu dis, elle est bien, ou la 10, tout ça. Et tu arrives sur Paris, vous savez qu'à genre 25 km de Paris, c'est plus les sociétés privées, c'est l'État qui gère directement. Et alors là, il y a un changement. C'est-à-dire que quand c'est l'État, parce que l'État n'a plus d'argent, on voit bien que les routes, les autoroutes sont quand même en moins bonne qualité. Les départements n'ont plus d'argent. Donc après, il faut savoir ce qu'on veut. Moi, je veux bien que tout soit public, mais comme on n'arrive pas à gérer tout, on gère mal. C'est quand même ça, un peu, la réalité.
On a un agent autoroutier, pardon, qui nous appelle de la Somme. Bonjour, Frédéric.
Bonjour.
Bonjour. Ça fait longtemps que vous êtes agent autoroutier ?
Ça fait quelques années, oui, déjà.
Et vous travaillez sur quel réseau, alors ?
Sur le réseau Nord-Est.
Qui appartient à qui ?
C'est la SANEF ?
Qui appartient à SANEF, oui, c'est ça.
La Société Nationale des Nord-Est de la France, c'est ça ?
Ouais, c'est le Nord. C'est l'autoroute A1, par exemple.
Et alors ? Société d'autoroute du Nord-Est
de la France.
Et alors, est-ce que vous êtes bien payé, tiens ?
Ben, on est bien payé, non, pas du tout, justement.
Alors oui, c'est ça, en plus.
Donc, on est payé au SMIC.
Ouais.
Donc, c'est-à-dire que là, admettons, le SMIC a été réévalué. Mais pas nos salaires, parce que nous, nos salaires sont à l'indice, il faut savoir. Donc, un petit peu comme les fonctionnaires, c'est un indice. On a un indice, donc un nombre de points. Le point a une certaine valeur. Et donc, moi, j'ai été embauché à 248 points. Donc, ce qui me fait 1245 € net, hors éléments variables.
C'est quoi les éléments variables ?
Les éléments variables, c'est les paniers, c'est...
Pour les horaires décalés, oui.
Les déplacements,
d'accord.
C'est tout ce qui vient se rajouter au salaire, en fait, qui vient faire nos payes, quoi.
Ouais, et ça vous permet de gagner combien en plus par mois, en général ?
Si j'ai pas d'astreinte, donc faut savoir, il y a beaucoup de contraintes dans ce métier, donc on a 17 semaines d'astreinte par an.
Mmh. Donc, il faut savoir que lorsqu'on est d'astreinte, on peut être appelé à n'importe quelle heure la nuit, au cas où il y a un accident, au cas où il y a des salages, par exemple, ou des déneigages, enfin, peu importe. On a 15 minutes pour arriver au centre. Mmh. Donc, en 15 minutes, il faut qu'on soit prêt au centre à s'habiller et à partir sur l'intervention pour laquelle on nous a appelés. Donc, c'est tout ça qui va faire notre salaire. Ouais. Donc, sans ça, je suis à peu près à 1 600 €. Sans astreinte, juste avec les éléments variables, donc les paniers, les frais de déplacement.
Donc vous faites partie de ceux qui disent aujourd'hui les sociétés d'autoroute, c'est pas les plus
sûr, à plaindre. Je suis pas sûr que vous seriez mieux payé si c'était l'État.
Mais attendez, j'aimerais poser une question. Vous avez travaillé quand c'était public aussi ?
Non.
Non, pas
Non, moi je suis arrivé il y a...
Il y a des anciens que vous connaissez, qu'on travaillait, qu'on fait la transition public-privé ?
Oui, c'est ça.
Et alors, qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils vous disent comme ça ? C'est intéressant, ça, d'avoir le retour des salariés.
Mais en fait, il y a un peu deux avis. Donc, il y en a qui...
C'est intéressant, ça.
Qui disaient que c'est beaucoup mieux, qui disent que c'est beaucoup mieux quand c'était privé, et d'autres qui disent que c'était mieux quand c'était public.
D'accord.
Mais vous n'avez pas d'intéressement ? Est-ce que vous avez un intéressement ou pas ?
Alors si, on touche l'intéressement et la participation aux bénéfices, mais il faut savoir que ça, ce n'est pas un acquis.
D'accord. Et là, vous avez touché combien jusqu'à présent depuis que vous êtes dans la société ?
Comment ça, sur une année ou pas ?
Non, vous dites que ça fait 5 ans que vous travaillez, donc vous avez intéressement et participation, c'est ça ?
Oui, il y a l'intéressement et la participation aux bénéfices qui représentent à peu près 6 000 et 7 000 € selon les années. Ça peut être plus, ça peut être
pas
moins.
Mal.
C'est pas mal quand même.
Mais c'est une moyenne de 500 euros sur moi.
Ce qu'il y a, c'est que c'est pas un acquis en fait.
J'entends bien, bien sûr. C'est lié à le.
On peut nous l'enlever ça.
Non, mais c'est lié au profit de l'entreprise. Mais comme vous êtes dans une entreprise qui a des bons profits, on peut pas vous l'enlever.
Merci. Si c'était public, vous auriez pas. À mon avis, il faut mieux que vous restiez dans le privé.
Merci.
Merci, Frédéric.
Olivier.
Demande à Kevin s'il a de l'intéressement.
Pardon, mais moi, on passe notre temps à avoir 32-16 des gens du public qui disent qu'ils sont mal payés.
Bien sûr, vous avez raison. Le public est un mauvais employeur.
Merci Frédéric d'avoir été avec nous. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur les autoroutes en attendant de rouvrir la discussion, le dossier en fonction de ce qui se passera, notamment du côté du ministère de l'économie.
RMC, les grandes gueules.